Avions donc commencé ce problème très important en éthique religieuse, le problème de l'obéissance. J'avais essayé de montrer comment le problème de l'obéissance existe déjà au niveau éthique humaine avec la famille et avec le point de vue politique. Oui, c'est très curieux, et ça, ce serait très intéressant à bien préciser. Vous savez bien que Aristote est le premier à donner une éthique personnelle, émergeant de l'éthique politique. Platon donne une éthique politique en premier lieu qui fonde l'éthique individuelle. La justice est écrite en grosses lettres dans l'État et en petites lettres chez l'individu. J'ai jamais oublié cette phrase de la République. Elle est très belle. On voit l'idéalisme forcené de Platon. Regardez, la justice écrite en grosses lettres dans l'État. Aujourd'hui. Et en petites lettres chez l'individu. Pauvre individu. Il y a quelque chose de vrai. Hein. C'est pas entièrement faux. Parce que la justice est quelquefois écrite en lettres majuscules dans les lois. Et les individus détournent les lois. Et donc la justice est écrite en petites lettres chez l'individu. Quelque chose de juste. Mais, d'autre part, cela ne fonde pas que l'éthique politique est avant l'éthique personnelle. Et ce serait très intéressant de voir d'où vient cette erreur. Ce serait sans doute de ramener toute l'éthique à la justice. Si l'éthique égale justice, l'éthique politique risque toujours de passer avant l'éthique personnelle. Mais il faut toujours essayer de saisir d'où viennent les confusions. C'est important de saisir ça. D'où viennent les confusions? Alors, bien comprendre ça, que l'éthique politique, de fait, de Platon, ça vient, je crois, cette priorité de l'éthique politique provient du primat de la justice en éthique. Chez Aristote, l'éthique n'est pas premièrement une éthique de la justice. C'est une éthique du bonheur, c'est-à-dire de la fin ultime de l'homme. Or, l'éthique du bonheur n'est pas premièrement au niveau politique. La fin d'un État politique n'est pas de donner le bonheur des citoyens. C'est de permettre un bien-être, un bien-vivre, et pas le bonheur. Le bonheur est personnel, individuel. Et c'est pour ça qu'Aristote voit tout de suite l'éthique personnelle avant, à cause du bonheur. La justice est un élément du bonheur, c'est pas le bonheur. C'est pas le jour où vous payez vos impôts, vous êtes le plus heureux de votre vie. Je crois pas. C'est pas à ce moment-là que vous êtes dans la joie. Vous êtes paisible parce que vous avez fait un acte de citoyen libre. Payez vos impôts. Vous dites, ouf, c'est fait. Un an de tranquille. Mais oui, c'est pas le bonheur. C'est un boulot qui est terminé. Votre bonheur, c'est quand? C'est quand vous rencontrez un ami. C'est quand vous contemplez. C'est ça le bonheur. Vous êtes heureux de retrouver un ami. Alors une bouffée de bonheur, ça ne dure pas. Parce que très vite le soir, l'ami doit partir. Alors on recommence le travail. Quand l'ami est là, oh, aujourd'hui, journée détente. parce que tu es là. Vous voyez, c'est très curieux, on voit très bien l'éthique du bonheur, qui est une éthique de l'amitié, qui est une éthique de la contemplation. Ça dépasse. Alors, dans l'éthique personnelle, puis bien qu'on ne parle pas d'autorité, parce qu'on est seul en face de Dieu. On est seul avec l'ami. Une éthique du bonheur parle très peu de l'obéissance. Ça fait comprendre des quantités de choses, ça, dans notre vie. Pourquoi nous avons tellement de peine à comprendre ce que c'est que l'obéissance? C'est parce que nous sommes, au fond, devant une éthique du bonheur personnelle et qui ne veut pas comprendre autre chose. C'est vrai, au niveau de l'amitié, il n'y a pas d'obéissance. Ça, tout à fait d'accord. Si vous ramenez toute l'éthique à l'amitié, il n'y a pas d'obéissance. On n'obéit pas à un ami. Un ami, on se retrouve ensemble, on est heureux. On se donne conseil. On se donne conseil. Oui, très bien. L'obéissance apparaît en éthique au niveau de la famille. Ça, je crois. Ce grand problème de l'obéissance, très important de le regarder philosophiquement. Ça apparaît au niveau de la famille, donc au niveau politique. C'est le fondement de la politique. L'obéissance apparaît entre l'obéissance des enfants et des parents. Du moins, ça devrait. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop. Avec Freud qui a attaqué le père, vous voyez ? Pas bête, Freud. Il a attaqué le père, parce qu'il sait que c'est le père qui est source de l'autorité. C'est que si vous attaquez le père, vous supprimez l'autorité. Et en supprimant l'autorité, vous supprimez l'obéissance. Si vous n'avez pas obéi à votre père, selon la chair et le sang, vous avez beaucoup de peine de rattraper ça. Beaucoup. Il faut le reconnaître. C'est là où c'est bon de reconnaître que c'est vrai. On avait un père terriblement autoritaire. Aucun contact d'amitié avec lui. Aucun. Et donc, toute l'astuce consistait à éviter le père, à le rencontrer. Il ne fallait surtout pas le rencontrer. On a tous connu ça dans notre jeunesse. Hein. Éviter le plus possible. Alors que si on était plusieurs frères et plusieurs frères et sœurs, il y avait une stratégie merveilleuse pour éviter les gendarmes. On faisait tout ce qu'on pouvait pour l'éviter. Et la mère était de temps en temps complice. Elle avait été avec nous. Elle avait une stratégie très habile. Éviter le père. Quand ils étaient obligés de le rencontrer, on se tenait bien. Moi tous, pas un mot. On ne disait rien. Tout ça, c'était pour éviter l'obéissance. Éviter l'autorité. On a tous fait ça. Il n'y a rien d'original là-dedans. En tant que théologien, je dis c'est normal. Parce que depuis le péché, on a peur de l'autorité. On a peur de l'autorité. Et on a peur de l'autorité paternelle. Pourquoi ? Parce qu'on met farouchement au-dessus de tout l'autonomie. L'orgueil. On veut être premier. Bon, l'autorité fait qu'on n'est pas premier. C'est empoisonnant. C'est pour ça qu'on considère toujours l'autorité comme un été noir. Dès que l'autorité est là, on se tait. Vous voyez l'été noir. On se tait. Chut. On touche. On est... Ça, c'est immédiatement. Parce qu'on veut être premier. Et on considère que l'autonomie est liée à être premier, sans autorité. Réfléchissez bien, hein, le fond de votre psychologie. Hein. Le fond de votre psychologie, il est là. Pas la peine de faire une psychanalyse. Je vous dis tout de suite que pour vous tous, le fond de votre psychologie, il est là. Il y a eu une confusion initiale entre autorité et pouvoir. au niveau paternel. Parce que vous avez eu des pères autoritaires. Moi, j'ai eu un père autoritaire, très autoritaire. Qui était merveilleux, mais c'était très autoritaire. Alors, il faut dénouer ça, au point de vue éthique. Comprendre que l'obéissance, c'est la coopération fondamentale entre l'enfant et ses parents. S'il n'y a plus d'obéissance, il n'y a plus de coopération. Alors, ordinairement, dans notre monde d'aujourd'hui, la coopération avec le père a été très abîmée, presque pour tous. Très abîmée. La coopération avec la mère, chez des garçons, ça existait. Pas toujours, mais ordinairement ça existait. Il y a donc quand même une coopération, déjà beaucoup. La coopération maternelle. Et pour les filles, quelquefois, la coopération paternelle. Parce que la coopération maternelle entre les filles et les mères, quelquefois, ça existe moins. Ça, je ne veux pas tomber dans cette étude psychologique qu'on peut faire, mais qui existe, qui est intéressante à voir. Parce que l'autorité se colore diversement chez le garçon et chez la fille. Ça se colore diversement. Il y a deux autorités colorées diversement. L'autorité paternelle pour les garçons, ordinairement, est tout de suite colorée d'un pouvoir et d'une rivalité. Freud a dit des choses justes là-dessus. C'est juste. Et que les premiers conflits sont ordinairement à ce niveau-là. Conflits très fondamentaux. Donc, le refoulement, si vous voulez, parce que le premier conflit est dans du refoulement, est à ce niveau-là. Pratiquement, ça se ramène toujours à ça. D'où l'essai de se libérer. Alors les complicités avec la mère, les complicités avec des frères aînés, les complicités avec quelquefois des frères benjamins, ça dépend. Des complicités, une stratégie. J'aime bien dire stratégie. C'est une complicité pour éviter le potentat. Éviter, comme disent les Grecs, le tyran. Et très souvent, c'est à base d'orgueil. Une exaltation d'autonomie. En éthique saine, il faut voir que la coopération première, c'est dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance. Obéir, c'est coopérer. Obéir, c'est accepter qu'il y ait un premier devant nous, plus grand que nous, auquel on obéit pour aller plus vite, pour être plus efficace. Donc c'est la coopération rapide et efficace. Que l'autorité est un service, et non pas une tyrannie. Que l'autorité implique et réclame quelqu'un qui coopère. Une autorité qui n'implique pas quelqu'un qui coopère devient vaine. Et que c'est très difficile d'accepter de se retirer quand on a l'autorité. Parce qu'on ne sait pas, problème de conscience, si on doit, à ce moment-là, passer de l'autorité au pouvoir, passer de la coopération au dressage, donc de l'éducation au dressage. Dans le dressage, il y a le fouet. Et on dresse par le fouet pour essayer d'apprendre certaines relations entre les réactions psychologiques. plus de finalité, uniquement le comportement. Le dressage regarde le comportement, alors que l'éducation regarde la finalité. Je crois qu'il y a là un nœud extrêmement important à saisir. Le dressage, c'est la formalisation de l'autorité en potentat. Et alors, il reste un pli terrible de la bête dressée en nous, de l'animal dressé en nous. Et immédiatement, dès qu'il voit l'autorité, il voit le dressage. Et donc se rejette dans le comportement et non plus dans la finalité. Et à partir de là, il n'y a plus que le dressage. Le dressage peut aller pour les animaux, mais le dressage ne va plus pour l'homme quand il grandit. Et il essaie par tous les moyens de s'évader de cela. Et c'est juste pour respirer. Retrouver la liberté. L'autorité légitime regarde l'enfant et pour Aristote regarde l'esclave. Alors là, c'est un très gros problème que je ne regarde pas ici. C'est le problème de l'esclavage chez Aristote. L'esclave, traduisons, le serviteur, ceux qui nous sont liés d'une manière ou d'une autre et qui désirent nous aider. Alors nous leur commandons comme des hommes libres. Et il se passe à ce moment-là, entre eux et nous, là encore une coopération. Et Aristote se pose la question, si la femme doit obéir, il dit que la femme, l'épouse, doit obéir. Parce que, pour Aristote, hein, je n'approuve pas ça, que la femme doit obéir parce qu'elle est incapable d'arriver à un jugement prudentiel parfait. Aujourd'hui, si vous sortez ça, ça hurle. Et ça, on a raison, on a raison. C'est intéressant de voir le principe. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est incapable d'émettre un jugement prudentiel parfait, vous lui rendez service en lui disant d'obéir. Autrement, il tombera dans un dilettantisme et une perte farouche de temps. On doit avoir suffisamment de lucidité pour savoir si notre jugement prudentiel est valable. Voilà au niveau de l'éthique humaine. L'autonomie, ce n'est pas l'autonomie, c'est le jugement prudentiel. Ne cherchons pas l'autonomie, c'est faux. C'est une réflexion sur un jugement prudentiel. Est-ce que notre jugement prudentiel est vrai? C'est la vérité de notre jugement prudentiel qui nous permet de mettre entre parenthèses l'autorité. Si notre jugement prudentiel n'est pas vrai, nous cherchons à nous soumettre à une autorité paternelle pour gagner du temps. Et ne pas perdre du temps. Et ça, chacun d'entre nous doit le comprendre. C'est l'éthique humaine, ça. Vous voyez que dans l'éthique humaine, l'obéissance apparaît au niveau familial. Donc au niveau politique. Donc au niveau communautaire. Et je dois me poser la question... Cette autorité familiale va-t-elle s'étendre au niveau communautaire, politique? Et je dis oui. Celui qui commande et qui a l'autorité politique réclame une autorité. Si vous avez échappé à l'autorité familiale, Vous aurez beaucoup de peine à vous soumettre à l'autorité politique. On le sait, c'est un fait, ça. Mais la différence de l'autorité paternelle, familiale, et l'autorité politique, c'est que l'autorité politique a un pouvoir de coercition, alors que l'autorité familiale n'en a pas. Et donc, si vous voulez échapper à l'autorité politique, vous tomberez nécessairement, tôt ou tard, sous l'autorité du gendarme. Pouvoir de coercition. Et qui viendra et qui vous mettra en prison. À ce moment-là, vous ferez tout ce que vous pouvez pour échapper à la prison. Et la prison n'existe pas au niveau familial. Et maintenant, il y a un pouvoir de coercition familiale, c'est de pouvoir enfermer dans les cliniques psychiatriques. Ce qui est terrible. C'est un pouvoir qui est laissé aux parents. C'est le pouvoir de coercition des parents. Un père menacé par son fils, je l'ai vu. Un père menacé par son fils, qui se met en colère. J'ai vu le fils brandir un gros fauteuil, il était puissant. Il avait 17 ans. Prendre le fauteuil et puis menacer le père avec le fauteuil. Alors le père, oh là là, oh là là. Et puis appelle la police. De coercition, emmené dans un hôpital psychiatrique. Et dans un hôpital psychiatrique, évidemment, immédiatement les soins. Cure de sommeil. Bon hôpital psychiatrique en Suisse. Entre Fribourg et Genève. Un excellent hôpital psychiatrique. Avec un bon médecin français qui s'appelait Durand. Ça ne vous dit pas très bien c'est qui. Heureusement que je le connaissais. Vous voyez, le pouvoir de coercition qui entre dans la famille. Grâce à la psychanalyse. Très curieuse. Parce que c'est vrai, c'est une prison, être dans un hôpital psychiatrique. C'est une prison élégante. Très élégante. Prison dorée. Vous entrez, puis vous voyez que vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Sous clé. Prison quand même. Ou bien, c'est un peu plus, la prison s'étend de temps en temps. Mais il y a le parc. Enfin, plus loin. Puis vous recevez ceux qu'on juge bon d'être reçus. Pour la prison. C'est très curieux, hein? Le pouvoir de coercition qui pénètre dans la famille. Alors que le pouvoir de coercition, c'est l'État. Et par là, c'est une mainmise sur la famille. De l'État. Qui fait participer ce pouvoir. Et ce pouvoir de coercition aujourd'hui s'étend à tous les citoyens. Voyagez dans le train, vous voyez quelqu'un qui paraît vraiment un peu malade. Un peu malade, vraiment. Il radote tout le temps. Puis, de temps en temps, il sort. Un couteau. Pas très drôle. Ça m'est arrivé, ça. Surtout dans le train de nuit. Partant le soir de Paris. Chercher un wagon où je sois un peu tranquille. Pouvoir dormir. Puis je vois, il n'y a qu'un seul personne. C'est énorme. Puis quand j'entre, il sort un poignard. Mais vrai, vrai, ça. Il sort un poignard. J'ai compris pourquoi elle était seule. Je ne suis pas parti tout de suite, j'ai essayé de voir un peu ce qui s'était. J'ai vu qu'il cuvait du vin. C'était facile à voir. Un vin qui n'était pas très pieux. Curé. Curé. Il disait ça comme ça. Sortez. Alors évidemment, on comprend très bien quand on est devant ça aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Jusqu'où doit aller la miséricorde? Pouvoir de coercition. Tout citoyen attaqué peut enfermer quelqu'un. Ça, c'est la liberté. Pouvoir de coercition. Vous voyez, c'est très connu. Il faut réfléchir là-dessus sur notre société. Sur ce que représente la liberté, ce que représente l'obéissance. Hein, les conflits entre les deux. Bon. On voit bien ce que représente l'obéissance au niveau éthique humaine. Ce serait très intéressant, hein, si un de vous peut prendre ça comme petit travail. C'est très intéressant de voir l'éclosion de l'obéissance et les divers niveaux de l'obéissance au niveau éthique, humaine. C'est un travail qu'on doit faire, ça. Et ce serait très intéressant à faire ça. Face à Freud. Et comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre liberté et obéissance. Il faut à tout prix supprimer ça. Et dire, je n'obéis pas pour être libre. C'est de la bêtise. Vous voyez, on a mis dialectiquement l'opposition entre les deux. C'est pas ça du tout. L'obéissance, c'est pas une négation de la liberté. L'obéissance, c'est pour être plus libre. On doit pouvoir le comprendre, philosophiquement parlant. Et on en a besoin de ça. Et de comprendre que l'obéissance s'introduit par la famille et que l'obéissance, on la retrouve au niveau communautaire. Second niveau de l'obéissance. L'obéissance en éthique religieuse. En éthique religieuse. Mais je ne suis pas encore en éthique chrétienne. Hein. En éthique religieuse. Où l'obéissance va-t-elle naître? L'obéissance va apparaître en éthique religieuse par rapport à Dieu. Vous voyez ce que Nietzsche ne peut pas supporter chez Kant, c'est d'avoir lié l'impératif dans l'impératif catégorique, d'avoir lié l'impératif humain et l'impératif du Créateur. Ça, c'est la grande critique de Nietzsche par rapport à Kant. Et il a raison. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec Kant, avec Nietzsche, tout à fait. Il faut débloquer ça. L'éthique religieuse apporte un nouvel impératif. L'impératif regarde l'autorité. L'intrusion du Créateur, l'intrusion. Légitime du Créateur. Donc c'est plus une intrusion. L'apparition du Créateur. La présence du Créateur au plus intime de l'âme. Ce que les stoïciens ont très bien compris. L'éthique stoïcienne a très bien compris qu'il y avait une obéissance particulière à Zeus. Et ça dans Épictète. Là, vous avez bien l'apparition de l'obéissance au niveau religieux. Il faut adorer. Et l'homme n'est vrai que quand il adore. Et cette obéissance religieuse par rapport au Créateur introduit dans l'éthique religieuse, une nouvelle dimension d'obéissance. C'est une obéissance sacrée. Mais elle regarde l'adoration. Elle ne regarde pas directement l'obéissance à l'égard des parents. cette obéissance nouvelle. Il faut découvrir cette obéissance. Il ne faut pas la confondre avec l'obéissance à l'égard du père et de la mère. Il ne faut pas la confondre avec l'obéissance à l'égard du chef d'État. Donc il y a une nouvelle autorité qui apparaît là. C'est l'autorité de Dieu. Cette autorité à l'égard de l'adoration est intérieure. Et elle peut s'extérioriser dans une certaine liturgie qui implique une adoration par rapport à la louange, par rapport à la reconnaissance, par rapport à toute liturgie. Et l'homme religieux a besoin d'une liturgie pour que son obéissance tout intérieure à l'égard du Créateur puisse s'emparer de ses gestes, de sa parole. Et la liturgie se fait dans l'obéissance. Religieuse et sacrée. Cette obéissance religieuse va pouvoir s'étendre à la famille par le mystère de la procréation. Et je verrai à ce moment-là que l'obéissance aux parents est une obéissance qui a un mode particulier, sacré et religieux, par la procréation et à cause de la procréation. Dieu confie aux parents la première éducation du tout petit, qui a été confiée à la mère. Est-ce que cette obéissance religieuse s'étend à l'aspect politique? Y a-t-il une obéissance religieuse politique? Grave question. Très grave question. Parce qu'elle est très actuelle. Ça, c'est très intéressant de voir ça. Voilà, très difficile. Alors, il faut être très attentif et essayer de comprendre. De fait, il y a eu des états religieux. Je ne parle pas de l'état chrétien. On verra ça après. Il y a eu des états religieux. Israël, c'est un état religieux. Cet état religieux repose-t-il sur l'aspect religieux ou repose-t-il sur la foi? Repose-t-il sur une promesse d'un Messie, d'un Sauveur? Repose-t-il sur une tradition religieuse? La réponse est facile. L'état religieux d'Israël repose sur la foi théologale et l'espérance théologale, et non pas sur un aspect purement religieux. Donc le fondement est théologal. Mais attention, le fondement est théologal en vue de la terre promise, de Canaan, d'où doit sortir le Sauveur, le Messie. Je crois que ça, c'est net. Cet état qui repose sur la foi a-t-il des principes propres politiques? simplement l'autorité de Dieu vient confirmer un état purement religieux. Mais les deux problèmes sont différents. Hein. Quand je regarde le décalogue, puisque l'état religieux, le peuple religieux dépend du décalogue. C'est à partir du moment où il y a eu la loi que le peuple est né. Avant, c'est la famille. C'est une famille religieuse. Je ne crois pas qu'avant le décalogue donné à Moïse, il y ait véritablement un peuple. Il y a des tribus. Il n'y a pas de peuple. Et si je regarde ce qui a été donné aux patriarches, ce qui a été donné aux patriarches avant d'aller en Égypte, il n'y a aucun principe qui a été donné à Dieu qui soit un principe propre politique. Tout reste une alliance sacrée de foi dans un sauveur. L'alliance qui repose sur le sabbat et la circoncision sont proprement familiales. Avec un rebondissement économique, c'est sûr, et familial. Politiquement, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de principe propre. Avec Moïse, on passe de la tribu et de la famille au peuple. Le peuple repose donc sur la loi. Regardez attentivement la loi, le décalogue. Trouver dans le décalogue un principe propre politique. Personnellement, je n'en trouve pas. Mais regardez-le. Si vous en trouvez, vous le noterez. C'est au niveau de la justice qu'il faut le regarder. Il y a un principe propre de culte, ça c'est sûr, qui reste individuel, familial, qui est communautaire, c'est vrai. Donc à ce point de vue-là, c'est tout simplement l'État qui doit respecter le culte. Mais est-ce que l'État qui doit respecter le culte religieux, est-ce que c'est un principe propre politique? Non. Il n'est jamais dit que l'État doit régler le culte. Le culte a été donné d'un point de vue familial. C'est le père de famille qui est père et prêtre. Et au moment où le peuple est devenu peuple, il y a une tribu, les Lévites, qui sont chargés du point de vue de l'État. Et les Lévites dépendent du grand-père, de la division des différentes tribu d'Israël. C'est pas l'État. L'État doit respecter qu'il y a des Lévites. On leur demande le respect. Il y a eu un moment, après les juges, où le peuple d'Israël veut son autonomie politique. Soulignez bien. L'autonomie politique. Et réclame un roi. Jusque-là, il n'avait pas d'autonomie politique. Il n'avait que des juges. Il n'avait qu'une loi. Il n'avait qu'une loi et des juges. Il réclame l'autonomie politique. Dieu dit non. Cette autonomie politique est grave. Et Dieu dit non. Malgré cela, Dieu accepte. Il y aura un roi. Est-ce que Dieu donne au roi un pouvoir nouveau? Dieu consacre les rois. Donc l'autorité du roi politique devient sacrée. Elle est religieuse. Y a-t-il, à partir des rois, un principe propre politique? Je crois qu'il n'y a que le sacre du roi. Il n'y a pas de principe propre politique. Mais le roi réclame une obéissance nouvelle, comme envoyé de Dieu. À côté du roi, il y a les prophètes. Les prophètes d'un pouvoir religieux relevant directement de Dieu. Et les rois doivent respecter les prophètes. Vous voyez, le respect que Dieu réclame du point de vue politique a quelque chose de nouveau avec la royauté. C'est le respect des prophètes. Et les prophètes sont des gens gênants. Parce que c'est l'interprétation de la loi. Et un au-delà de la loi. Je crois que c'est la seule chose qu'on voit au point de vue politique qui fait que cet État religieux a quelque chose d'unique. Le respect des prophètes. Et à cause des prophètes, la construction du temple. Le temple n'est pas uniquement familial. Le temple dépend du roi. C'est le roi qui le construit. C'est très important. Ce n'est pas une famille pieuse qui a donné sa fortune pour construire le temple. C'est le roi. Et donc, il y a quelque chose qui relie le roi au temple et qui fait que le culte va devenir un culte officiel dans Israël. Il va y avoir donc l'alliance entre l'aspect politique et l'aspect cultuel, le culte, qui va commander un état religieux par le point de vue du roi, des prophètes et du temple. Les trois éléments qui font que nous sommes en présence de quelque chose de tout à fait nouveau au niveau politique religieuse. Et toute cette politique religieuse dépend d'un acte de foi et d'une alliance qui repose sur la foi et sur l'espérance. Donc, on n'est pas en présence uniquement d'une éthique religieuse, politique. Il semblerait donc, si je regarde le grand exemple qui nous est donné, qu'une politique religieuse dépend d'un élément supra-religieux qui est la foi. La foi est théologale. Elle n'est pas religieuse. Elle est théologale. Et donc on est en présence de quelque chose de tout à fait nouveau qui nous fait dépasser le point de vue éthique-religieux. Et évidemment, ce point de vue de la foi a immédiatement une incarnation politique. Et je peux dire que l'État d'Israël est un État religieux qui se fonde sur un aspect théologal. C'est ça qui est capital à comprendre. Y a-t-il, à ce moment-là, une nouvelle obéissance? Oui, bien, l'autorité du roi est religieuse, elle est sacrée. L'autorité des prophètes est reconnue, elle est religieuse. Il y a donc deux types d'obéissance d'un nouveau caractère. Puisque l'obéissance à la loi n'implique qu'une modalité nouvelle. Elle est rattachée à l'envoyé de Dieu, Moïse. Mais spécifiquement, l'obéissance à la loi n'est pas quelque chose de particulier. Ça reste une obéissance religieuse. Alors dans cette obéissance religieuse, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'obéissance éthique? L'adoration, ça c'est très net. La liturgie, c'est très net. La famille, l'indissolubilité du mariage, c'est très net. Avec tout ce que ça comporte au point de vue moral. Point de vue justice, la dîme donnée au prêtre, ça c'est religieux. Et c'est quelque chose religieux et politique. Je ne crois pas qu'il y a d'autres points. Si vous en voyez, vous me le direz. Donc vous voyez, éthique religieuse fondée sur un aspect d'une alliance théologale. Une éthique religieuse, purement religieuse, nous ne la voyons pas. Elle est fondée sur un point de vue théologal, bien que formellement, elle reste une éthique religieuse, puisque tous les points qui sont commandés peuvent se justifier au point de vue purement religieux. Je crois que c'est ce qu'on doit dire. Alors, il reste un très gros problème au plan philosophique. Est-ce qu'une éthique